Gaihon Roer. Bueno, nik entzaiatuko niz euskaraz, no, ez, erderaz mintzatzen, donc je vais plutôt essayer de m'exprimer en français, hein, donc dans le français qui est le mien, donc qui n'est pas le vôtre non plus, donc voilà, on ouvre déjà un peu le volet de la variation, hein, bientôt on va peut-être fermer la porte aussi, le Sulota n'étant pas du Guipuscoan ni du Batua, hein, le français de Suisse n'étant pas tout à fait du français du Sud-Ouest, hein, mais, voilà. En principe, la communication devrait bien passer acoustiquement parlant. Hein. Après, pour le contenu, bon, c'est toujours difficile d'apporter quelque chose qui soit à la fois digeste, si possible agréable et utile. Hein. Donc, on va voir si un de ces trois critères sera rempli. Hein. Donc, c'est toujours difficile d'apporter des choses trop théoriques, trop générales, parce que, comme je le disais hier à Tarlet, c'est évidemment chaque famille est différente, chaque situation sociolinguistique est différente et chaque école voilà, est différente aussi avec des enseignants différents. Donc systématiser ou vouloir apporter des choses apporter des choses trop formatées, ça n'apporte rien. Hein. Donc je joue mon rôle, c'est-à-dire que je représente quand même l'université, donc je vous apporte 2-3 concepts, 2-3 choses, 2-3 points de vue un peu de l'extérieur. Et après l'idée c'est de ramener ça à vos préoccupations. Oui, peut-être quotidienne ou en tout cas récurrente, hein, d'accord. Voilà. Donc voilà. Alors au menu du jour, enfin du soir, je voulais partir justement des représentations sociales, c'est-à-dire de sortir du Pays Basque et de regarder un petit peu comment est-ce que on formule les choses, comment est-ce qu'on parle du bilinguisme, que ce soit dans des discussions de café ou dans la rue. Hein. Il n'y a pas besoin d'être expert pour s'exprimer au sujet du bilinguisme. L'être humain disposant de cette faculté du langage, chacun a le langage, chacun parle une ou plusieurs langues, et puis on a tous un avis sur la chose, même si on ne s'y est pas arrêté consciemment, on a un avis, hein, souvent assez formaté, assez stéréotypé. Donc l'idée, c'est plutôt de commencer par quelques extraits d'entretiens qui ont été retranscrits, donc on a un transcrit, donc pas oraux, vous n'allez pas les entendre, mais les lire, quelques séquences, 4 ou 5, hein, avec des contextes différents, des acteurs sociaux différents aussi, qui montrent un petit peu, qui font ressortir finalement des choses assez diffusées, hein, et récurrentes lorsqu'on s'exprime du phénomène du bilinguisme. Alors ça, y a des universaux, il y a des choses qui reviennent tout le temps. On le verra, hein, notamment sur les aspects normatifs, hein, le fait d'être parfaitement bilingue, le fait d'avoir un accent ou pas, le fait de faire des erreurs. Hein. Et ça, c'est des critères qui reviennent souvent, notamment dans les aspects après définitoires du bilinguisme. Vous parlez un peu d'enseignement bilingue, peut-être en montrant quelques aspects théoriques, hein, que vous connaissez, que vous pratiquez, ou peut-être que vous, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, évidemment, que vous connaissez peut-être, mais peut-être les mettre en avant et rappeler peut-être un peu ce que c'est, ou ce que n'est pas aussi l'enseignement bilingue. Là aussi, il y a toujours des questions qui reviennent. Hein, donc, il y a aussi des universaux autour des questions qui inquiètent les parents, les enfants, un peu moins les enfants, mais les parents et les enseignants, tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin dans la dimension de l'acquisition des langues et puis du bilinguisme, hein, que ce soit familial ou scolaire. Donc, je vais avant tout me contenter de les poser et pas d'y répondre tout de suite parce que je préfère y répondre justement comme je vous l'ai dit, hein, en adaptant un petit peu à votre situation précise. Mais les poser, hein, montrent d'une part que voilà, vous n'êtes pas les seuls à se poser ce genre de questions et ça peut-être rassurer en quelque sorte en se disant « bah oui, ça c'est en effet, ce sont des choses assez traversantes dans mon parcours et qui reviennent souvent ». Et puis, oui, c'est pas très long, ensuite, parler évidemment des bénéfices de l'enseignement bilingue, c'est-à-dire de montrer en quoi finalement ce genre d'enseignement fonctionne bien et puis que les gens qui sortent des classes bilingues en tire profit, et pas seulement pour les langues finalement, hein, on voit souvent l'avantage, oui, d'être bilingue, de parler deux langues, mais quand on fait des mathématiques ou de l'histoire géo ou autre chose dans une deuxième langue, il y a des apports qui portent aussi sur les disciplines même, hein. Donc voilà. Et puis bien que n'étant pas expert, je ne sais pas, bascologue, il y a à mon avis des avantages très très qui cible vraiment de manière exemplaire, le basque. Hein. Le basque, à mon avis, un atout que d'autres langues régionales de France n'ont pas. Hein. Et je crois que c'est bien de les aborder aussi un petit peu et puis de voir si ça correspond aussi à votre à votre avis. Donc, on va commencer avec deux trois séquences qui, alors en effet, vous concernent moins, ça ne concerne pas le basque, hein, mais c'est intéressant de voir comment les gens parlent du bilinguisme. Enfin, moi, ça m'intéresse de commencer comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, nombreuses idées reçues, nombreux mythes, beaucoup de stéréotypes. Hein, c'est la pensée collective, hein, c'est les choses qu'on suppose partager, hein, le prêt à parler. Des choses, vous passez 3 minutes avec quelqu'un dans un ascenseur, ou je sais pas, vous croisez quelqu'un, il est bilingue, et puis vous avez 3 minutes pour parler de bilinguisme un peu de manière superficielle. Et là, dans le domaine des représentations sociales, hein, on a toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent. Hein. Le savoir collectif, les présupposés partagés, donc on va dire oui, mais il n'est pas parfaitement bilingue. Alors on va voir 2-3 séquences. Ce qu'on retrouve toujours, hein, à titre préliminaire, c'est que finalement ces phénomènes de contact de langue sont en général assez mal vus, hein, mal perçus, et génèrent en général des jugements négatifs, hein, ou en tout cas réservés. Hein. Donc, si l'enfant mélange les langues, en général, les parents vont s'inquiéter, ou les gens vont dire ben, « il parle pas bien, il parle ni l'une ni l'autre, quelle horreur, voilà, que faire hein. ?» Et puis, pour les sociolinguistes, les didacticiens des langues, au contraire, hein, c'est plutôt positif si à un moment, dans le développement de l'enfant, si les langues, à un moment donné, se mélangent. Hein. Ce matin, j'ai entendu « glacea » à la place de « isoskia », et puis finalement, c'est une phase transitoire, et puis peut-être que les petites diront « isoskia »,« isoskibat naïut », je ne sais pas, hein, dans quelques années. Hein. Donc voilà. Mais on a tendance à voir, justement, on le verra, le monolinguisme, le bilinguisme comme la somme de deux monolinguismes. Hein. Alors, on va développer cet aspect. Hein. Alors, il y a l'idée d'erreur, l'idée de mélange qui est très mal perçue. Et on mesure, comme je viens de le dire, le bilinguisme essentiellement selon le critère d'une maîtrise, hein, en général d'une maîtrise égale et parfaite, hein, des langues. Alors, ça pose des problèmes. On le verra, hein, pourquoi. Et puis, un autre aspect qui ressort des représentations, c'est évidemment l'école, oui. L'école, c'est bien, c'est bel et bien un endroit où on apprend les langues. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. On les apprend plus ou moins bien, mais surtout, on les apprend, mais on ne les acquiert pas, si vous voulez. Donc, il y a une opposition en didactique des langues ou en acquisition des langues, où on oppose l'acquisition, justement, à l'apprentissage. Hein. Donc, l'acquisition, c'est les langues, la langue ou les langues maternelles et les langues familiales qu'on développe depuis l'enfance. Tandis que l'apprentissage, c'est difficile, ça demande un effort, on n'y arrive pas toujours. Et puis, si, quand on parle, hein, du bilinguisme, on reconnaît bien que l'école joue un rôle fondamental, on oppose quand même au bilinguisme même, c'est-à-dire que l'enfant, il ne va pas devenir bilingue, il a des connaissances, il a... Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une affirmation, une vérité absolue, c'est ce qu'on retrouve dans les discours sur le phénomène. Donc, quelques exemples. Hein, d'où l'importance d'écouter les gens, de voir comment est-ce qu'ils formulent un peu leurs avis sur le phénomène. Donc, je commence avec un exemple qui concerne des parents d'élèves. Alors, en Suisse, où il y a beaucoup de langues, hein, beaucoup de langues de migration. Il y a 4 langues nationales en Suisse, dont une qui est très minoritaire, hein, le romanche, mais qui est langue nationale et langue officielle. C'est la 4e langue nationale, mais c'est la 11e langue la plus parlée en Suisse. Donc il y a plus de gens qui parlent portugais ou serbo-serbe, croate, albanais, espagnol que romanche. Donc il y a aussi du turc, et là ce sont des parents d'élèves de nationalité turque. Ils disent « Bon, ben, moi je ne me considère pas bilingue. Pourquoi ? Ben, parce qu'on est de nationalité turque. » Donc on est turc, on n'est pas bilingue. Hein. Vous voyez, déjà il y a l'idée de ne pas être intégré, peut-être aussi, donc c'est un problème qui est peut-être pas pertinent pour vous, mais je parle français, je fais beaucoup d'erreurs. Hein. Donc, je parle français, donc il le parle, mais il fait beaucoup d'erreurs, ça exclut pour lui, il n'adhère pas à la définition de la personne bilingue, parce qu'il fait des erreurs. Donc ça c'est un cas, là, les langues de migration, hein, comment est-ce qu'on intègre les langues de l'extérieur aussi. Cette problématique, elle est aussi pertinente pour la réflexion ici, parce qu'il y a une idée d'intégrer une langue, ou deux langues, ou les deux à la fois. Des élèves, cette fois, qui sont en classe bilingue, français-anglais, et puis on leur demande « Est-ce que vous vous considérez comme bilingue avec l'anglais ?» Alors, il y en a plusieurs qui disent « Oui », ce qui peut paraître étonnant, parce qu'en général, on a des réticences à s'auto-définir comme bilingue. Et puis après, deux avis différents. L'un dit, ben, ça vient. Donc, devenir bilingue, pour lui, c'est possible. Pour l'autre, il est beaucoup plus normatif. On va voir, être bilingue, c'est de langue maternelle. Ça veut dire, on est N-A-I-T, avec, mais on ne le devient pas. Donc, il y a ces deux critères qu'on retrouve souvent dans les discours. Je suis né, je suis bilingue, j'ai grandi avec deux langues. Ou alors, je le deviens, est-ce que c'est possible de le devenir? Une grande question. Donc voilà, là on a les deux avis qui sont représentés. Donc ça rejoint cette idée apprentissage ou acquisition. Des enseignants cette fois-ci, alors voilà, des enseignants cette fois dans une classe bilingue italien-français en Suisse, on est en train d'utiliser le terme bilingue n'importe comment. Qu'est-ce que c'est bilingue? Le plus dur vraiment, voilà. Alors, il dit, des élèves, même avec 10 heures, ils auront une peinture d'italien, ils ne seront pas bilingues. Donc 10 heures d'italien par semaine, c'est un peinture, pas dur, mais on n'est pas bilingue. Alors à quel moment est-ce qu'on est bilingue? Voilà, et ça c'est une énorme question. Donc vous voyez, une exposition à 10 heures par semaine à de l'italien, une langue seconde, une langue 2, de l'avis de cet enseignant, c'est pas du bilinguisme. Alors que dans les fêtes, l'élève, il va, pendant 10 heures par semaine, il va parler italien, il va comprendre, il va agir en utilisant cette langue. Donc il y a beaucoup de définitions, on va le voir, qui sont très strictes, et beaucoup trop strictes sur le bilinguisme, qu'on peut difficilement appliquer. Alors des biennois, qu'est-ce que sont des biennois ou des biennoises? Alors voilà, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des habitants de la ville de Bienne en Suisse. Bienne, c'est la plus grande ville bilingue en Suisse. Il faut dire qu'on a quatre langues nationales, mais elles ne se chevauchent pas, elles ne sont pas juxtaposées, elles sont pas superposées, elles sont... C'est quatre communautés linguistiques juxtaposées. Donc, on a des frontières linguistiques qui sont, qu'on peut dessiner, on peut colorier la carte avec les quatre couleurs, les quatre langues. Bienne est une ville qui est sur la frontière, donc il y a finalement assez peu de régions bilingues. Et là, donc, que se passe-t-il? Donc, c'est des gens qui sont concernés au quotidien par le bilinguisme, ils disent, voilà, les gens disent que je suis bilingue. Moi, je me considère très clairement comme suisse-allemand, avec une bonne part de français intégré. Voilà. Si on prend le terme bilingue au sens strict et sévère, où je maîtrise les deux langues également, parfaitement, vous voyez, je ne suis pas bilingue. Parce que je fais des erreurs, je fais des fautes. Voilà. Donc la personne semble connaître cette définition stricte basée sur la maîtrise des langues. Donc elle n'est pas bilingue si on prend ce critère. Mais par contre, les autres gens la catégorisent comme bilingue. Les autres gens disent que je suis bilingue. Donc vous voyez, même dans des régions bilingues, il y a ce problème aussi. À partir de quand on est bilingue? À partir de quand, finalement, on l'est? Et là, c'est plutôt l'idée de mélange. Ben oui, parce que si déjà je parle français, j'aime bien parler en français et pas un mélange. Parce que c'est quand même important, sinon je ne peux pas dire que je suis bilingue. Donc là, le fait de, selon cet argument, le fait de mélanger les langues exclut l'adhésion en fait à l'étiquette bilingue. Alors que aussi bien les neurolinguistes que les psycholinguistes vous le diront, c'est justement parce que les langues sont, plus on est bilingue, mieux on arrive à les mélanger. Et le mélange de langues en général n'est pas du tout quelque chose d'anarchique. Donc on peut décrire des grammaires, du code switching, des grammaires de l'alternance des langues avec précision selon des mécanismes morpho-syntaxiques, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui sont très réglés, qui ne sont pas du tout anarchiques. Mais dans la conscience collective, encore une fois, un mélange de langues, c'est la fin du monde. Quoi. C'est, voilà, il ne parle plus rien, il ne va jamais parler. Plus... Voilà. Donc ça, c'est une inquiétude aussi présente. Donc si on résume un petit peu tout ça, on voit... Alors il faut marquer une dichotomie, une différence importante entre un point de vue monolingue et un point de vue bilingue sur le bilinguisme. Donc la perspective monolingue, attention, attention parce que, alors moi je ne viens pas ici avec des recommandations ou quoi que ce soit, c'est juste donner quelques impulsions, quelques stimuli pour alimenter la réflexion. Mais le point de vue monolingue, la définition canonique, ce serait le bilingue, le bilinguisme, c'est la compétence d'un locuteur qui est reconnu comme natif dans les deux langues, ou plus. C'est native-like control, donc le contrôle natif. Voilà, c'est assez ancien, et puis c'est cette définition auquel ni les didacticiens, ni les sociolinguistes, ni les sociodidacticiens, ni personne n'y adhère. Mais c'est celle que si vous faites un micro-trottoir dans la rue comme ça, les gens se basent là-dessus pour argumenter. Avec notamment cette manière de modaliser le bilinguisme, on est parfaitement bilingue, on est un parfait locuteur, locuteur complet, et ça, ça revient toujours. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Une autre définition dans ce sens, les polyglottes sont des personnes qui usent de plusieurs langues depuis l'enfance, avec une égale aisance. Là, de nouveau, il y a l'idée de symétrie, on clone une compétence à côté de l'autre, enfin, c'est très monolithique. Hein, il n'y a pas de communication entre les deux, c'est deux choses identiques, mais depuis l'enfance, et c'est très strict. Donc, selon ces définitions, vous avez 1,5% de la population mondiale qui est bilingue. Hein, et dans les faits, vous avez, selon des définitions fonctionnelles, celles qu'on va aborder maintenant, vous avez presque les trois quarts de la population du monde qui est bilingue. Alors bon, du coup, le point de vue monolingue est basé, on a vu, sur la maîtrise, en général, égale des langues et depuis l'enfance. Donc c'est ça, c'est le bilingue, c'est la somme de deux monolingues. Bon, ici j'ai mis un multiplicateur, mais voilà, choisissez le signe arithmétique qui vous convient, mais c'est deux fois le monolingue, c'est la somme de deux monolingues. Voilà, ces notions locuteur complet, le vrai bilingue, le parfait bilingue, le ushkalun à part entière. Alors évidemment, il y a des degrés de compétence, évidemment, il y a des gens qui sont très compétents, il y a des gens qui ont reçu le basque sans interruption familiale, il y en a qui l'ont réappris. Évidemment, les compétences ne sont pas égales, et c'est justement avec des définitions un peu plus flexibles qu'on peut intégrer le bilinguisme, qu'on peut valoriser le bilinguisme aussi avec des gens qui finalement sont peut-être encore apprenants, mais pour nous déjà bilingues. Si vous faites votre transaction à la boulangerie en basque, mais que vous ne savez pas le faire chez le cordonnier, bon, voilà, vous êtes déjà sectoriellement, partiellement bilingue, selon nous. Et ça doit vous valoriser, vous motiver à aller chez le cordonnier après, pour continuer ailleurs. Bon. Donc, comment définir la maîtrise? Ça, c'est le problème, selon ces définitions. Qu'est-ce qu'une maîtrise aboutie, égale, parfaite? C'est quoi? Et puis, voilà, qu'est-ce que le monolinguisme? Et puis, qu'est-ce que, finalement, le parfait monolingue? Est-ce qu'une personne qui parle une seule langue, un monolingue endurci, est-ce qu'il ne commet pas des erreurs? Est-ce qu'il ne fait pas de fautes? Est-ce qu'à l'oral, il ne produit pas des phrases incomplètes? Est-ce qu'il ne reformule pas? Est-ce qu'à l'écrit, il n'oublie pas tout une fois un S au conditionnel? Je ne sais pas. Un parfait monolingue, est-ce que ça existe? C'est un idéal. L'Académie française, il y en a peut-être 3 ou 4 ou 5, mais est-ce qu'ils sont aussi parfaits que ça? En tout cas, en dehors de leur monolinguisme, ils ne sont certainement pas parfaits. C'est hors micro. Et c'est comme ça qu'on arrive à considérer le terme de semi-linguisme. On ne l'aime pas beaucoup parce qu'il repose justement sur cet idéal monolingue. Mais en fait, l'idée que la personne n'est finalement ni... c'est pas un locuteur de la langue seconde. Dans la première, il a encore des problèmes. Et ça, ça arrive, ça existe. Mais ça existe quand on arrache une langue à quelqu'un qui est justement en train de la développer. Au bilinguisme soustractif, on va en parler un peu tout à l'heure, mais l'idée de baser, justement, de mesurer le bilinguisme sur une maîtrise parfaite, ça n'aboutit à rien, et puis ça, c'est pas comme ça qu'on l'envisage dans un enseignement bilingue constructif, on va dire. Donc, l'importance du point de vue bilingue ou plurilingue sur le bilinguisme, c'est de considérer justement une perspective additive basée sur l'utilisation des langues, et pas sur la maîtrise. Donc des définitions fonctionnelles. Donc ici, l'adjectif additif, finalement, il s'oppose à la fois à cumulatif, c'est-à-dire que ce n'est pas 1 plus 1, c'est plutôt une sur l'autre, une à partir de l'autre. Il faut qu'il y en ait une, en tout cas, qui soit fortement, à laquelle l'enfant soit fortement sollicité, pour qu'il puisse construire l'autre. C'est pour ça que dans le cadre du bilinguisme de certains migrants, parfois, et ça peut arriver aussi dans le cas de langues minoritaires, on renonce, les parents, ça arrive en Suisse, il y a notamment dans les lusophones, les locuteurs du portugais, ils arrivent, et puis ils veulent tellement bien intégrer leur enfant qu'ils essayent de l'assimiler au lieu de l'intégrer. Alors tout d'un coup, ils parlent français à la maison, un français qu'ils maîtrisent eux-mêmes pas très bien, donc ils parlent pas très bien français, mais on va dire, voilà, on est en Suisse romande, on parle français, on va lui parler, on parle que français, et puis le portugais derrière la porte. Et puis là, les enfants n'ont pas encore développé, à l'âge de 3-4 ans, ils sont encore en train de développer la première langue, on leur retire leur première langue, et c'est là qu'on arrive dans des choses qui sont ennuyeuses, ennuyantes. Et ça peut se faire aussi à l'école, hein, quand vous, justement, j'entends dire que des gens retirent leur, enfin que les enfants arrêtent à certains moments, ils sont bilingues, ils passent en monolingue. S'ils sont très jeunes, c'est pas bon, hein, donc l'exposition à la première langue, il faut respecter ça et puis que la deuxième se construise sur la première. Donc additif mais non cumulatif, et puis en même temps additif et non soustractif, hein, donc pas une langue au détriment de l'autre. Une définition plus conventionnelle basée sur l'utilisation, le bilinguisme, c'est la capacité d'utiliser hein, une ou plusieurs langues, deux ou plusieurs langues à toutes fins utiles. La capacité, ça montre aussi qu'on a des langues parfois qui sont désactivées, qu'on n'utilise pas pendant 2 ans, 10 ans, 15 ans, hein, mais qui sont assez vite réactivées ou en tout cas réactivables. Hein. Donc la capacité, ça veut dire qu'en effet, il n'y a pas l'idée d'utilisation. Oui, il y a l'idée d'utilisation virtuelle, quoi, potentialité à utiliser des langues. Et puis, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'idée de compétences partielles. Hein. On peut être très bon, on peut être très fluide, donner la recette du poulet basquaise en basque sans problème, mais pas vous parler d'informatique en basque. Hein. Et pourtant, la personne, elle sera très à l'aise dans un cas et pas du tout dans l'autre. Pour nous, elle est quand même bilingue, surtout elle est spécialiste. Et ça, en français, vous le voyez aussi. Hein, si vous entendez si j'entends des informaticiens dans mon université qui parlent entre eux, je comprends rien du tout. Si vous allez à l'hôpital, vous tendez le bras, vous avez deux gens qui s'occupent de vous et qui parlent entre eux, c'est très codifié, on comprend rien non plus. On est dans ce qu'on appelle des situations exolingues. Et ça, ça n'a plus rien à voir avec le bilinguisme, simplement. Il faut tenir compte de cette répartition fonctionnelle possible, hein, des compétences partielles ou sectorielles qui correspondent à des domaines d'utilisation. Hein. Donc, pour le basque, ben, il peut être utilisé en famille, il peut être utilisé dans certains cas et dans d'autres pas. Hein. Il y a des situations, en général, l'enfant sait assez rapidement dans quelle situation il va utiliser l'une ou l'autre langue ou les deux, hein. L'adulte aussi. Pour les petits, ils ne savent pas encore toujours, donc c'est normal qu'ils se mélangent. Voilà, principe de complémentarité entre les langues, hein, c'est important. Bon, je l'ai déjà dit, répartition fonctionnelle, et puis domaine d'utilisation. Ou alors, dans la tradition didactique de laquelle, bonjour, de laquelle je suis issu, le bilingue, c'est une personne qui satisfait les ententes sociales de la de communauté linguistique diverse, donc on prend aussi en compte. À partir de quand on est reconnu finalement comme un locuteur à qui on va répondre dans la langue, même si ce n'est pas parfait. Et puis il y a évidemment un lien avec l'aspect biculturel. Hein. La personne, elle a aussi deux cultures finalement. Et puis et ça ouvre aussi justement sur tout ce qui est plus lié peut-être aux traditions, aux valeurs locales, hein, qui se font peut-être plus facilement dans la langue. Ici on a les mascarades, les pastorales, les choses comme ça. Ça peut commencer par là, pour peut-être des gens qui viennent de l'extérieur, hein, une manière d'entrer dans la langue basque. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette idée de partir justement d'énoncer qui ne sont pas spécialisés sur le phénomène et puis de revenir sur des définitions et marquer surtout cette opposition importante entre le point de vue monolingue sur le bilinguisme et le point de vue plus ouvert et qui correspond davantage aux pratiques, hein, à la réalité en fait. Donc un point de vue plurilingue sur le bilinguisme. Donc pour l'enseignement bilingue, je ne vais pas faire trop lourd non plus, hein, mais pour l'aperçu théorique, je voulais rappeler quatre principes fondamentaux de l'enseignement bilingue. Bon, l'élément essentiel, c'est évidemment que l'enseignement bilingue, c'est l'enseignement d'une ou de plusieurs disciplines dites non linguistiques dans une langue seconde. Donc c'est pas de l'enseignement de langue, c'est de l'enseignement en langue. Et puis, vous voyez qu'il y a une cohérence avec ce que j'ai dit précédemment, j'imagine, c'est que pour nous, le bilinguisme, enfin, dans le cadre de l'enseignement bilingue, celui qui réussit, celui qui est mesuré aussi, hein, aussi bien quantitativement que qualitativement, pour nous, le bilinguisme, c'est un but, bien sûr. On aimerait que le petit devienne grand et bilingue. Mais on considère que le bilinguisme, c'est aussi un outil, c'est aussi un moyen pour développer les langues. Donc ce contact entre les langues, ces alternances que vous faites peut-être en famille ou peut-être à l'école, hein, de convoquer ces langues, hein, de ne pas dire maintenant... Enfin, il faut des plages monolingues, hein, il faut des moments où on dit maintenant la leçon ici est en basque, ici est en français, mais le fait de pouvoir à tout moment... convoquer l'autre langue pour éclairer l'autre, c'est en général très positif parce que c'est là, ça incite l'enfant à faire des liens entre les langues. Et puis c'est justement là qu'on voit le bilinguisme comme un outil de construction en quelque sorte. Donc c'est un but, mais c'est avant tout, pour nous, avant tout, c'est surtout un moyen. Donc voilà, les linguistes aiment jouer avec les prépositions. Hein, le bilinguisme s'acquiert par l'enseignement, par l'apprentissage, mais aussi pour cet apprentissage. Hein, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Et puis, ce bilinguisme en construction, alors bon, on le sait, on le mesure, on compare avec des classes monolingues, ça se fait de plus en plus partout. Hein. On sait que l'acquisition de la L2, donc la langue seconde, évidemment la L2, langue seconde ou langue étrangère, c'est pas toujours ça facile dans des contextes de langue minoritaire de savoir laquelle est la 2 et laquelle est la 1. Hein. Ou est-ce qu'il y a deux langues 1? Donc je développe pas ce point-là qui est assez important. Il y a des langues nationales, langues 1 ou alors langue minoritaire, langue majoritaire, langue familiale, langue scolaire. C'est difficile de savoir laquelle est la 2 parfois, mais bon. L'enseignement bilingue est reconnu pour ses bénéfices concernant l'acquisition des langues 2, des langues qui sont qui font partie de l'enseignement, de la structure éducative, mais aussi pour les contenus disciplinaires, hein, c'est-à-dire que faire des maths en basque, c'est aussi bon pour les maths, hein, et pas seulement pour le basque ou pas seulement pour le français, mais par ailleurs c'est aussi bon pour la première langue. C'est-à-dire justement, si on a un enseignement ouvert sur la contiguïté entre les langues, la langue 1 va se restructurer au travers de la première. Hein, donc on a un outil, une loupe qu'on n'aurait pas si on fait tout dans une seule langue. Et l'enfant qui fait des choses en une seule langue, il a peut-être tendance aussi à décrocher un peu, ça devient un bruit de fond, hein, comme moi maintenant, je vous parle en français, peut-être il y a certains moments où voilà, ça devient un bruit de fond plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable. Tandis que si vous le faites dans une autre langue, il y a une focalisation sur la langue qui revient, et puis après on compare, et puis la langue 1, on dit qu'elle est restructurée au travers de la deuxième, de la seconde. Voilà, ça c'est un des principes. Alors je vais assez rapidement sur le deuxième, hein, c'est aussi un peu jouer sur les mots peut-être selon vous, mais que l'enseignement bilingue, oui, il a une certaine complexité. Hein. Il est pourvu d'une certaine complexité, il faut l'avouer, hein, mais on opposerait complexité à difficulté pour dire oui, cette complexité elle est là, mais c'est bien qu'elle soit là. Il faut affronter cette complexité, et en affrontant cette complexité, comme je l'ai dit avant, hein, on fixe certains savoirs, on oblige le travail cognitif, et de manière positive, et pour les langues, et pour les disciplines. Donc voilà. Donc ceux qui n'ont pas la chance d'affronter cette complexité ne font pas toute cette démarche, finalement. Donc ils passent à côté de quelque chose. Bon. Alors j'anticipe un petit peu sur les bénéfices, mais on sait que l'enseignement bilingue, à cet égard, est bon pour l'activité métalinguistique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le métalangage, c'est-à-dire les outils qui les permettent d'acquérir ensuite d'autres langues. Hein. Tout l'aspect analytique de la langue. Hein. Ça, c'est très développé chez les enfants qui suivent des classes bilingues, en immersion ou immersion partielle. Donc pour nous, c'est la question n'est pas si dichotomique que chez vous. Hein. Pour nous, l'enseignement à parité horaire, bon, il n'existe pas vraiment en Suisse, mais c'est de l'immersion aussi, hein, si vous voulez. C'est juste le taux d'exposition qui n'est pas le même. Hein. Mais l'enseignement bilingue, qu'il soit immersif total ou partiel, finalement, aboutit à ce développement de l'activité métalinguistique qui est très bon alors pour justement pour l'acquisition de langues 3 et 4 ou alors pour décortiquer la langue, pour l'analyse grammaticale. Il y a des choses qui dépassent un petit peu la langue sur l'abstraction, la conceptualisation, la structuration de l'information, la créativité, hein, des choses qui font partie en fait des bénéfices, donc on gagne déjà un peu de temps sur ce qui suit. La notion de défamiliarisation aussi, hein, c'est ça, c'est d'être... on l'utilise beaucoup en lien justement avec le retour sur la langue 1 à travers la L2, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup on avait... Ah oui, ben oui, dans cette langue, j'avais pas vu que c'était un mot composé, hein. Tout d'un coup hein, on compare les langues et puis on a cet éveil métalinguistique, on est défamiliarisé, on retrouve des éléments, on décortique sa propre langue alors qu'on l'aurait pas vu si on était resté dans un cocon monolingue. Voilà. On peut le faire, on peut faire le parallèle avec quelque chose de non linguistique, c'est-à-dire que si quelqu'un me montre la soule, hein, il y a le Suisse qui arrive, le Suisse débarque, et puis on me guide dans toute la soule, hein, le tour de la soule en trois quarts d'heure, par Jean-Louis, non, par exemple. Je pense qu'il voit sa province différemment, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle un genre de cécité contextuelle. Hein, on ne voit plus les choses, ça devient le paysage ordinaire. Et puis, avec quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, vous réobservez, vous réapprenez à observer, à admirer, hein, vos paysages, vos, je sais pas, vos pancartes bilingues. Et puis, ah oui, ici, c'est, voilà, c'est comme ça, ça a été traduit, ici, pas. On revoit les choses un peu différemment. Donc, c'est ça. Hein, on est défamiliarisé au niveau du paysage ou du paysage linguistique, mais on peut le voir aussi au travers des langues même. C'est ça. Et puis, alors, le troisième principe, alors, on insiste passablement sur la notion d'intégration entre les langues et les disciplines. Hein, donc, oui, l'idée de ne pas cloisonner les enseignements, mais de savoir qu'on peut à tout moment faire des liens entre les mathématiques et la physique, bon, ça c'est pour les plus âgés, hein, ou entre les langues, entre le sous-latin et le batois, finalement, à certains moments, ce serait peut-être intéressant de voir, ah oui, en batois, il y a ça, en sous-latin, on a gardé Oroer, mais ici c'est Orotarik, et puis je ne sais pas, faire des liens entre les langues, et puis regarder comment certaines racines sont diffusées ou adaptées, hein, peut-être. Ici, on a un emprunt au français. Ici, c'est du basque pure souche. Hein, donc, alors, je n'entre pas dans les différents types, modes, degrés, lieux d'intégration, mais je peux vous donner deux exemples. Bon, alors, tout ça repose un petit peu sur cette hypothèse Sapir-Whorf qui est assez diffusée, assez connue chez les linguistes, qui concerne justement le découpage de la réalité, hein, de l'univers par les différentes langues. Donc, chaque langue découpe, chaque langue a un spectre, en quelque sorte, un filtre de la réalité qui exprime certaines choses, hein, donc on documente peut-être plus voilà, certains aspects qui correspondent au contexte social dans certaines langues que dans d'autres. Et puis, l'image qu'on a des concepts est différente. Et là, c'est bien justement de le faire en plusieurs langues. Donc il y a l'exemple qui est assez, que les gens en général retiennent et apprécient, c'est celui du tétard. C'est un exemple qui venait d'une classe du Val d'Aoste en Italie, oui, on a un enseignement bilingue généralisé français-italien. Le français est officiel en Val d'Aoste, mais n'est pas la première langue. Donc il y a en fait trois variantes. Il y a l'italien, le français, le franco-provençal. Et puis parce qu'il y a le franco-provençal, hein, si vous voulez, le franco-provençal, c'est le dialecte qui correspond au français dans cette région, hein, comme en Suisse romande et comme dans la région de, voilà, de la Savoie également. Donc voilà, on avait enregistré, enfin c'est pas moi, j'étais encore trop petit, j'étais encore à l'état, voilà, à l'époque, mais une séquence sur le tétard où justement ils ont dans ces classes, alors ils ont, c'est du luxe, hein, ils ont deux enseignantes dans la même classe, l'enseignante de discipline et l'enseignante de langue, en coprésence. Hein. Et vous avez l'enseignante de, par exemple, d'histoire, elle fait son truc, elle parle de l'histoire, voilà, l'histoire française, et puis quand il y a un problème de langue, elle passe le relais et c'est la prof de français qui intervient et puis qui repasse la parole. Donc bon, ça donne une articulation dynamique assez intéressante, évidemment, hein, à partir de quel moment il y a une passation de pouvoir, en quelque sorte. Alors le tétard, parce que vous attendez avec impatience. Oui, alors c'était une leçon de biologie, évidemment. Hein, enfin, moi aussi, en Suisse, quand j'étais petit, on ramenait on allait chercher dans un étang 3-4 tétards et puis on dessinait le métabolisme, enfin le développement jusqu'à la grenouille. Hein. C'était pas le spécimen le plus heureux, je pense, parce qu'il vivait un peu dans un bocal à l'étroit. Mais enfin bon, le tétard, voilà. Donc c'est en Italie, donc c'est au Val d'Aoste. Et puis le tétard en français, vous voyez, on a le mot tête. En fait, on a une définition, on a un mot qui est dérivé de la tête. Donc c'est plutôt une définition morphologique, hein, du concept. Alors on peut la tête, tétard, on peut faire un travail avec le suffixe ar aussi en français selon l'âge des enfants, mais bon là c'est peut-être pas le cas. En italien c'est girino, hein, il tourne, un girare, tourner. Alors, vous voyez, l'avantage de faire ça, de montrer, de comparer les langues à ce moment-là, c'est que déjà l'enfant, qui n'est pas encore un scientifique, quoi, l'enfant il a déjà deux définitions. Il sait que le tétard c'est un animal qui tourne un peu sur lui-même, hein, il fait un girare, voilà. Et puis il a une grosse tête. Si vous le prenez en espagnol, vous avez renacuario ou quelque chose comme ça, hein, on a le milieu ambiant. Hein. C'est la grenouille, mais la grenouille qui vit dans l'eau. Hein. La vraie grenouille, elle peut sortir. Le tétard, il reste dans l'eau. Vous voyez pour l'enfant ce que c'est enrichissant de voir. Donc ça, c'est plus les langues, c'est vraiment les langues qui éclairent. C'est déjà un concept disciplinaire. Hein. Alors évidemment, maintenant vous êtes tous en train de chercher, si vous dites plutôt sabarburu ou apaburu ou je ne sais pas quoi, hein, ou chalburu peut-être. Mais là aussi, on a, hein, parce que hier, tout d'un coup, plus personne ne m'écoutait, c'était un grand débat sur comment ce qu'on disait le tétard en basque et en sous-latin. Hein. Donc, est-ce qu'il a la tête plate en sous-latin, hein? Vous pas, donc je ne sais pas. Hein, mais Est-ce qu'il a... Voilà, je ne sais pas. Mais en effet, c'est intéressant de comparer. Hein, puis dans chaque langue... Alors j'ai aussi l'exemple, par exemple, en Finlande, en finnois, on a Sammakonpoikainen, c'est le fils de la grenouille. Donc là, il y a l'idée génétique, en fait. Donc vous voyez, chaque langue, elle a... Et ça, c'est déjà pour les petits, donc ce n'est pas des théories savantes. Et puis c'est vrai que à travers ça, j'aimerais montrer... Enfin, les meilleurs enseignements bilingues qu'on retrouve, c'est celui où justement, où finalement, on est dans la leçon de basque, mais le français, il est quand même le bienvenu. Ou à l'inverse, on est dans une leçon de français, mais s'il faut sortir un mot en basque à ce moment, parce que c'est voilà, parce que ça apporte quelque chose. Parce que pendant longtemps, c'était ça. Hein. Ici, on parle français, enfin, vous le savez bien. Hein. Et à l'école aussi, j'ai encore vu récemment, je ne sais plus, un prof, c'était des sections bilingues français, tchèque, c'était, enfin, j'étais pas en Tchéquie, mais c'était un jeune enseignant de mathématiques en tchèque, et il disait, oui, moi, quand j'enseigne les mathématiques... En français, je ne sais pas le tchèque, je ne sais plus le tchèque. Donc on fait la sourde oreille, et puis, bon, ça peut se faire pour inciter l'enfant à dire comment, j'ai pas compris, bon, pourquoi pas, mais ça peut aussi, il faut pas exagérer non plus, il faut laisser une marge de tolérance, et puis pas forcer l'enfant, sinon il va jamais parler, il va se bloquer, et puis... La même chose, si vous lui parlez en basque et qu'il répond en français, c'est pas grave, hein, c'est parce qu'il y a peut-être le français qui est aussi parlé dans la famille par une autre personne, et puis quand il parlera avec les grands-parents, ou qui eux préfèrent nettement parler en basque, ou qui, enfin voilà, il y aura moins d'ambiguïté, et puis il y aura vraiment un besoin, c'est ça, l'idée de besoin, hein, de linguistique, quoi. Il faut que la langue soit utilisée aussi à des fins, voilà, des utilisations réelles. L'école est un lieu d'utilisation réelle, mais ça fait du bien aussi quand on peut l'utiliser en dehors, et ça, peut-être parfois le problème aussi, hein, ici, pour certaines familles. Voilà, il y avait l'article de Claudine Leralou, ici, en Pays Basque. Pour les mathématiques, cette fois-ci, elle montrait justement que dans des classes bilingues français-basques, finalement, quand elle fait de la géométrie avec le triangle, ben, en français, voilà, le sommet, ici, ça va. Hein, mais un triangle ayant trois sommets, les sommets, ici, bof, hein, ils acceptent pas tellement. Hein, pour eux, ils comprennent que le sommet, c'est la même chose que le sommet du... Coucou, du sapin. Voilà. Oui, bon, voilà. C'est pas très naturel, hein, comme ça. C'est plus très naturel, mais enfin bon. Tandis que, voilà, en section basque, tout d'un coup, il y a le terme Erpina qui apparaît, et puis là, ils sont tout à fait à Erpina, Erpina, bye, Erpina, bye, erre. Trois fois Erpina, ça va. Hein, parce que c'est un nouveau terme qui arrive. Ils n'ont peut-être pas vu en famille, ou je ne sais pas si ce terme existe en souletin, ou s'il existe avec d'autres significations. Mais en tout cas, c'est un autre exemple où on a cette intégration finalement entre des choses linguistiques et des choses qui relèvent de la discipline. Donc voilà, pour l'intégration. Donc il est important de... Alors ça, c'est plutôt au niveau de l'institution, du système éducatif, de bien répartir, enfin de penser la répartition, hein, ce qu'on appelle la macro-alternance, entre un choix de langue et un choix de discipline. Hein. Quelle langue, dans quelle discipline, dans quel ordre, quel taux d'exposition, est-ce que... Bon, ici, en général, c'est très dichotomique, quoi. C'est parité horaire ou ikastola, en gros. Hein, il n'y a pas, par exemple, en Suisse, on a des modèles transitoires pour le romanche, hein, qui est une langue très menacée aussi, mais peut-être, vu qu'elle est officielle et qu'elle est quand même plus compactée, hein, on l'a beaucoup plus dans l'espace public, on l'entend beaucoup plus que le... J'ai l'impression que le basque à certains endroits... Eh bien, pour le romanche, on a ces modèles transitoires où finalement tout le monde commence en romanche, hein, la maternelle, la crèche, etc. Et puis l'allemand vient petit à petit, et puis à la fin, bon, je ne sais jamais les équivalences avec le système d'ici, mais à l'âge de 12-13 ans, quand ils sortent de la scolarité obligatoire, ils n'ont plus que les sciences naturelles et les mathématiques en romanche et tout le reste en allemand, par exemple. Hein. Mais ils continuent de parler le romanche dans la cour de l'école, en général. Donc ça fonctionne assez bien. Donc c'est ça, quelle langue, dans quelle discipline, dans quel ordre, et puis est-ce qu'on change. Dans la ville de Bienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils font par exemple, ils font les mathématiques dans une langue et la physique dans l'autre. Donc si mathématiques est en allemand, ils font physique en français, justement pour inciter, hein, à faire des connexions. Et par ailleurs, s'ils redoublent, parce qu'en Suisse on peut redoubler assez facilement, hein, aussi, s'ils redoublent les mathématiques qu'ils avaient fait en français, l'année d'après ils les feront en allemand. Donc c'est aussi, ouais, y a des alternances un petit peu. Voilà. Mais ça fonctionne, hein. Non, il s'arrache les cheveux. Oui, peut-être eux, oui. Mais... alors, au niveau lycée, en Suisse, il y a des gens qui commencent l'enseignement bilingue au niveau du lycée et qui n'ont jamais fait de bilinguisme avant. Ils disent, au début, ils rament. Ils disent, c'est difficile. Au début, ils ont des moins bons résultats au début. Hein, il y a 3 ans de lycée, en général en Suisse, 4 à certains endroits. Ils ont de la peine au début, mais ils savent que c'est comme ça. C'est une courbe naturelle. Donc, ils sont un petit peu en retard au début. Deuxième année, ils rejoignent la moyenne. Et puis, ils disent eux-mêmes, ils décrochent. Hein, donc, en troisième année, ils sont au moins aussi bons que les autres. Que ceux qui n'ont pas les deux langues à la maison, par exemple. Donc, voilà. Après, évidemment, là, il faut prendre en considération des paramètres sociaux, sociolinguistiques. Hein, quand une langue est, quand il y a un rapport très asymétrique hein, ou diglossique entre deux variétés, c'est pas la même chose que si les deux langues sont valorisées par tout le monde et qu'elles sont interchangeables, hein, qu'elles ont la même valeur. Et puis la typologie des langues, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'il y a des langues qui sont proches entre elles hein, et puis des langues qui sont très distantes. Alors là, j'aborderai ça tout à la fin, donc très bientôt, hein, rassurez-vous. C'est important d'inclure ces paramètres aussi, hein, la dynamique d'articulation entre deux ou trois variétés finalement. Et puis, on a vu les représentations sur les langues et sur le bilinguisme, sur l'apprentissage, c'est important aussi. Hein. Il y a des représentations très fortes, hein, on va vous dire, oui, mais les mathématiques, c'est pas une discipline qui doit s'enseigner en basque, quoi, ça va pas. Hein. Et le basque, c'est pas une langue pour les maths. Eh ben non, ça marche très bien, en tout cas. Les experts hein, de l'éducation nationale en France qui regardent, qui s'intéressent aux épreuves nationales de baccalauréat, hein, ils remarquent, en tout cas pour le basque, je sais pas pour les autres langues régionales, mais pour le basque, hein, ceux qui font l'épreuve nationale en français, en mathématiques, et qui ont fait que du basque, qui ont fait les mathématiques en basque au lycée, ils ont des meilleurs résultats que ceux qui ont fait tout en français. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est pas du hasard non plus. Hein. Et puis le dernier principe donc, de l'enseignement bilingue, il y en a d'autres, hein, là, voilà, hein. C'est que justement on est dans une... Alors c'est le pendant de la notion d'intégration, c'est qu'il faut... On décloisonne en général. Hein, un bon enseignement ou un bon enseignant bilingue, c'est quelqu'un qui justement fait des liens entre les différents savoirs mis en jeu. Hein. Et là, il y a des nouveaux courants, courants assez récents, la didactique intégrée. Hein. Par exemple, en Europe, on a beaucoup l'allemand après l'anglais. Hein. Donc on intègre, on se dit, ils savent l'allemand, ils ont tous fait de l'allemand. Hein. Donc voilà. En Suisse, il y a le problème du dialecte suisse-allemand, hein, qui n'est pas du tout comme l'allemand standard. Donc il y a une très grande différence, et c'est ce qu'on appelle une diglossie. Alors maintenant, ils commencent à faire de la sensibilisation suisse-allemand. On intègre un peu, on compare, on dit, voilà, en allemand c'est comme ça, en dialecte c'est comme ça. Et puis la didactique du plurilinguisme, dont fait partie l'enseignement bilingue, où là on a en général aussi des disciplines, hein, des choses qui sont pas, des enseignements qui ne sont pas prioritairement linguistiques. Donc les langues, elles ne sont pas en isolation ni en concurrence, mais elles sont là, synergie, voilà, même on n'aime pas ce mot, hein, mais il faut se méfier des termes un peu à la mode comme ça, qui surgissent de nulle part et puis que tout le monde utilise, hein, mais voilà. Je l'ai quand même fait. ce qui est, à mon sens, plus important, c'est de se dire que ces phénomènes de contact de langue, il faut les normaliser, les considérer comme des choses normales, et dans une perspective didactique, de les didactiser. Hein, donc l'alternance des langues, comme on a vu avec hein, peut-être Tétard, et toi tu dis comment dans ta langue, et voilà, comparer. La comparaison, la contrastivité entre les langues, hein, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour le rendre accessible certaines notions. Et puis, l'exploitation des ressources linguistiques, en effet, si on sait que voilà, dans une classe bilingue, basque, français, il y a quand même un portugais, hein, c'était arrivé hier, bah, peut-être lui demander à certains moments, bah, là je m'adresse plus aux enseignants, mais peut-être en effet ça peut être intéressant de savoir comment lui aussi il dit tétard en portugais, par exemple. Voilà. Alors tout ce que je viens de dire, en fait, est appuyé scientifiquement par justement la théorie de Cummins sur le double iceberg. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement si on cherche de la littérature sur le bilinguisme, sur le développement cognitif. Hein, c'est-à-dire vous avez la langue 1, la langue 2. Avec le niveau de. Alors, j'ai dit le niveau de la terre, c'est le niveau de la mer, hein, voilà, de l'océan plutôt ici. On voit. Mais bon, par contre, ici, il n'y a pas d'iceberg. On voit évidemment la face visible. Mais on ne voit pas ce qu'il y a dessous, et puis dessous, en effet, il y a une zone qui est importante, c'est qu'il y a une compétence sous-jacente commune. Ça se voit, hein, quand vous avez M. Dalgalian qui vient ici, il le montre plutôt au niveau neurolinguistique, donc il vous montre les aires de Wernicke, Broca, je ne sais quoi. Ça se voit aussi en surface, finalement, ça, parce qu'il y a ce contact de langue. Donc il y a une interrelation. Les langues, elles sont connectées dessous et ça se voit plus ou moins en surface. Ça s'entend quand il y a des interférences, justement, et les gens ont tendance à ne pas considérer cette compétence ici. Hein. Ils ne la considèrent pas alors qu'elle est importante. Elle nourrit chacune des langues. Donc chaque fois que vous avez quelqu'un qui fait une interférence, finalement, c'est plutôt bon signe. C'est qu'il a cette compétence sous-jacente et puis que les langues, elles sont bien là. Et puis, il se séparera en temps voulu. Donc ça va remonter à la surface de l'iceberg au moment voulu. Quoi. Il n'y a pas de problème. Mais cette zone, elle est importante aussi de la stimuler. Donc voilà, les questions récurrentes. Alors, les craintes, ce sont des craintes. Alors j'ai décidé de ne pas y répondre. Voilà. Au revoir, merci pour tout. Pourquoi ? Parce que vous allez les adapter, comme je vous ai dit. Hein. Simplement, il y en a certaines qui sont... C'est peut-être bien de savoir qu'en effet, peut-être que... Enfin, de voir que finalement, il y a un top 10, top 15. Là, j'en ai quelques-unes qui vous montrent qu'en principe, c'est... voilà. J'ai déjà répondu plus ou moins directement. Donc voilà, est-ce que l'enfant mélange les langues ? Est-ce que c'est grave ? Non, mais on peut creuser après. Hein. Maintenant, je passe ça si vite. Est-ce que le bilinguisme ne représente pas une surcharge pour l'enfant ? Hein, c'est aussi une question qui revient très très souvent. Hein. Ça peut l'être dans une moindre mesure pour les enseignants, mais pas tant que ça. En général, ils ont du plaisir aussi, il y a beaucoup de volontaires, et puis il y a des économies aussi, il faut cibler des choses. Enfin, je ne crois pas que ce soit à ce point-là une surcharge pour l'enseignant. Pour l'enfant, en tout cas pas. Il y a de la place pour plein de langues. La langue 1, est-ce qu'elle se développe normalement ? Alors là, peut-être qu'on a des attentes aussi, les parents, peut-être parfois des attentes basées justement sur ces définitions assez strictes. Hein. On le met 3 semaines à l'école, et puis voilà, toujours pas un mot de basque, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ça c'est plutôt pour la langue 2. Hein. Alors attendez, la langue 2, ça vient tout de suite. Les compétences disciplinaires, voilà, est-ce qu'il apprend vraiment les mathématiques, hein, finalement ? Ou est-ce qu'il apprend que le basque, ou est-ce qu'il apprend ni l'un ni l'autre ? La grande question, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre de la langue 2 hein, ici, pour moi, la langue 2, c'est quand même le basque, même si elle est langue 1 pour beaucoup, hein, mais dans la perspective, pas familiale, mais d'enseignement, c'est quand même plutôt une langue 2. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre là aussi hein. Les parents attendent peut-être trop. Hein, ils se disent, bon, il est à l'école bilingue, maintenant c'est bon. Alors, l'anecdote importante qui était, il y a 3 ans, quand je suis venu à Biarritz la première fois, ici c'est ma troisième intervention, mais Biarritz c'était en 2010, il y avait justement des parents d'élèves qui avaient témoigné, puis c'était très intéressant parce qu'ils n'étaient pas bascophones du tout, puis ils avaient mis leur enfant dans une école bilingue basque hein, à Biarritz. Et puis, ils nous disent, alors les enseignantes nous disent, ouais, ils parlent bien le basque, c'est fantastique, gna gna gna. Et puis, nous, on ne l'a jamais entendu dire un seul mot. Ils étaient inquiets, ils se disent, mais elles sont complètement mythomanes, ces enseignantes, quoi. Il n'a jamais dit un mot de basque. Hein. Et puis, il y avait, justement, l'anecdote était assez sympa, parce que ça montrait bien qu'il y a, un besoin, la nécessité d'un besoin linguistique. Donc, ils sont partis à Donostia, hein, l'enfant a joué sur la plage, il a rencontré un petit de Hegoalde, et puis, tac, il a commencé à parler en basque, c'était leur langue en commun, je pense qu'ils ont dû négocier le choix de langue. Hein, castellan, non, ouais, non. Français, non, tampoco. Bon, jusqu'à là, il s'agit de sa une. Et puis voilà, donc c'est magnifique, je trouve que c'est des exemples qui montrent bien que finalement, il ne va peut-être pas parler tout de suite comme on voudrait, mais s'il y a un besoin, une nécessité ou une occasion, ben voilà, il va délier les langues, le basque délie les langues. Sont-elles réservées à une élite hein, ça on entend parfois aussi chez nous, est-ce que voilà, c'est pas pour une élite, voilà, donc en principe pas, hein, donc ça devrait être accessible à tout le monde. Et puis la question qui revient sur les élèves moins scolaires, hein, est-ce qu'ils vont pas être encore est-ce que ça va pas être encore pire quoi, est-ce que ça va pas péjorer leur scolarité s'ils sont déjà moins scolaires? En fait, les élèves moins scolaires, il y en a partout. Hein, et puis un élève moins scolaire, il sera aussi peu scolaire en monolingue hein, de toute manière. Donc après, il faut voir. Évidemment, il y a parfois des cas de dyslexie avancée ou je ne sais quoi, où on va lui dire, bon ben voilà, il faut peut-être renforcer une langue. Peut-être, mais dans un cas où c'est simplement un élève moins scolaire avec des guillemets, comme j'ai mis, autant qu'il soit moins scolaire en bilingue, finalement, parce qu'il a quand même 2 langues qui sont là. Hein, voilà, l'enseignant, le profil type d'enseignant en classe bilingue, là aussi il y a des formations spécifiques, mais je pense encore une fois que si quelqu'un est volontaire pour l'amour de la langue, et puis qu'il a l'occasion de le faire, il n'a pas besoin d'une formation spécifique d'enseignant bilingue, je pense qu'il sait, enfin intuitivement, les gens en général font bien les choses, du moment qu'ils sont d'accord de mettre les langues en commun, et puis de savoir qu'elles sont valorisées toutes les deux, hein, ou toutes les trois. Alors les bénéfices, on va en parler peut-être encore après, mais j'ai déjà insisté sur les bénéfices de l'enseignement bilingue, ils sont unanimes, il n'y a pas d'avis négatif, mais il faut que ces conditions soient respectées, l'importance de construire un bilinguisme additif, comme on l'a vu tout à l'heure, l'importance d'intégrer, hein, on a vu cette notion d'intégration, et puis l'importance aussi qu'il y ait des besoins linguistiques langagiers, hein, pas que la langue soit juste une décoration ou... Voilà. Donc, si ces critères sont remplis, là aussi, on peut en discuter après. Je ne vais pas approfondir, hein, maintenant je vais conclure. Mais on a des bénéfices qui portent sur les langues elles-mêmes. La première et la deuxième, la troisième. Des bénéfices qui portent sur les disciplines dites non linguistiques. Donc en France, longtemps, on travaillait avec disciplines non linguistiques. Hein, mais maintenant, j'ai un collègue parisien et puis avec d'autres personnes, on a adopté DDNL, c'est-à-dire on parle de disciplines dites non linguistiques. Parce que finalement, quand vous enseignez la géographie, vous parlez et puis le langage il est partout finalement. Donc chaque enseignant est un enseignant de langue malgré lui. Hein, même s'il n'est pas intéressé à la grammaire, l'enseignant d'histoire, il va travailler. Sa matière première, finalement, c'est la langue, hein, qu'elle soit écrite dans les manuels ou orale. Donc elles sont foncièrement linguistiques. Donc mon collègue et néanmoins ami parisien Jean Duverger, lui, il n'est pas le petit dé, mais il dit que ce sont des disciplines notoirement linguistiques. Donc il joue aussi avec le sigle, mais différemment. Les bénéfices, on en a un petit peu parlé, on les a évoqués au niveau cognitif, métalinguistique, l'analyse de la langue, la rétroaction sur la première, la mise en lien entre les différentes, et puis des produits dérivés, si on peut dire, hein, la créativité. Hein. J'avais l'exemple, justement, j'avais cité il y a 2 ans, mais j'ai oublié hier, mais c'est vrai qu'on donne une tasse, une simple tasse, avec une anse à un enfant bilingue. Apparemment, il sait faire plus de choses avec la tasse qu'un enfant monolingue, donc il est plus inventif. Je sais pas, il va peut-être la casser, tandis que le monolingue va la laisser entière. C'est hors micro aussi. Voilà. Abstraction, conceptualisation, donc c'est des choses qu'on retrouve quand on le mesure, parce qu'on le mesure, là on rigole un peu, mais on le mesure aussi bien qualitativement que quantitativement, hein, ce bilinguisme. Et puis pour le basque, encore une fois, je ne suis pas bascologue, mais voilà, l'aspect à trouver, à mon avis, et bon, d'autres le disent aussi, hein, dans la typologie des langues, c'est-à-dire la manière de considérer, de classer les langues selon leur structure et de les analyser selon leur structure. Donc là, en effet, c'est difficile, je crois, de trouver un bilinguisme territorial avec 2 langues aussi distinctes, hein, que le basque et le français. C'est très difficile, je me suis posé la question, où est-ce qu'on trouve ça ? Peut-être au Paraguay avec l'espagnol et le guarani, mais encore, il faut aller très loin pour trouver une distance entre deux langues qui est si monumentale. Hein. Et là, c'est magnifique parce que justement, cette distance, elle incite, elle oblige à un effort assez... je le sais, hein, moi, ça fait aussi quelques années que je manipule des auxiliaires dans tous les sens. Et puis, je vois à peu près le portrait de la langue basque, je vois à peu près... Les grammaires de basque, je les collectionne, j'en ai plein à la maison, je sais à quoi ressemble la langue basque, hein, même si voilà, je ne l'articule pas vraiment encore. Ouais, je dis encore, hein, moi j'ai de l'espoir. Oui, je reviendrai en tant que Euskaldun, Beria. Alors là, il y a plein de choses à faire. La syntaxe, évidemment, tout ce qui est morphosyntaxe, est complètement à l'ouest du français. Quoi. Donc il faut retourner la phrase, vous le savez bien. Pour le lexique, il y a des choses intéressantes parce qu'on peut en effet travailler sur le lexique primaire, le lexique basque d'origine, qui lui aussi est très distant, mais on peut aussi s'intéresser à tout ce qui est emprunt. Donc le basque, je crois qu'il a quand même 50% du vocabulaire qui a été emprunté aux langues romanes, donc au gascon, au latin, au français, à l'espagnol, mais assez savamment aussi. Donc parfois, hein, c'est très masqué et on ne voit pas tout de suite que corpus et gorputz, bon là ça va encore, mais il y a des emprunts qui sont beaucoup mieux dissimulé. Donc là, on peut aussi, dans une perspective de didactique intégrée, se dire, on va aussi remonter vers le gascon ou l'occitan, regarder un peu comment le mot s'est transformé, est-ce qu'il y a des correspondances systématiques, est-ce qu'un C latin devient toujours un G en basque, ou des choses comme ça, je ne sais pas. Mais... C'est juste pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec le basque, hein, que c'est un atout aussi, vraiment, pour d'autres langues. Hein. J'ai déjà parlé des connaissances métalinguistiques, pour la langue une comme pour les langues secondes. Alors, l'écart, conscience de l'écart, hein, relativiser cette notion de difficulté, hein, finalement. Là aussi, quand j'explique à mes amis suisses, c'est difficile, comment leur expliquer à quel point le basque est différent ? Alors pour eux, en Suisse romande, les francophones, pour eux, la différence, le top, c'est l'allemand. C'est la langue qu'on n'aime pas apprendre à l'école et puis qui est difficile, différente. Et moi, je leur dis, moi, depuis que je fais du basque, l'allemand, je trouve que ça ressemble énormément au français. Ils sont là, quoi ? Alors, va faire du basque, tu verras, après l'allemand, ça va être plus facile. Donc, voilà. Donc, je fais plus d'habitude, bon, ça va. Alors, on a parlé un petit peu de cette réalité, hein, qui se découpe de manière différente d'une langue à l'autre. les aspects liés à la culture aussi, hein, pour le basque, on est sûr de les spécificités du basque, et puis des choses plus universelles. Alors le basque n'est pas forcément plus tolérant que le suisse, j'en sais rien, mais il y a cette idée, on remarque souvent quand on fait des entretiens semi-directifs avec des gens qui sont des classes bilingues, il y a toujours cette idée d'ouverture, de tolérance, on comprend mieux l'autre, on intègre plus facilement, on accepte aussi, enfin, au niveau oui, des productions aussi peut-être, voilà, c'est pas... Ces idées reviennent souvent, et puis un élément à pas négliger pour le bac, c'est quand même, voilà, j'ai cité l'exemple du petit qui va à Donosti avec ses parents, et puis qui utilise son basque alors qu'il l'avait jamais fait en présence des parents. C'est quand même une langue qui est bien pourvue de l'autre côté, finalement, hein, et qui est, enfin... je vais atterrir à Bilbao cette fois, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai pas fait les Saspi Akbat, mais j'ai fait presque toutes, hein, j'ai traversé quand même beaucoup de provinces, et puis... on entend quand même des jeunes, peut-être plus facilement, qui utilisent le euskara de l'autre côté. Hein. Après, bon, tout est relatif, mais c'est une langue importante de l'autre côté. Et puis, comme disait Michel tout à l'heure, hein, tout d'un coup, on n'est plus des quoi, des garra, on est des euskaldun, hein, de l'autre côté. On n'est pas des... Des gavachos. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, moi j'ai terminé, donc j'ai quelques éléments bibliographiques dont je me suis inspiré. Bon, le premier, je ne le thématise pas. Il y a des choses assez courtes, hein, qui peuvent être téléchargeables en PDF. Avec ces questions, l'enseignement bilingue, état de la situation, c'est justement ces questions qui reviennent tout le temps avec des réponses un peu plus fournies que ce que j'ai donné aujourd'hui. Jean Duverger qui vient souvent en Pays Basque, hein, qui vient dans 2 semaines. Voilà, des choses qui peuvent, si vous êtes intéressé à lire, je peux vous transmettre la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Hein. Michel va vous donner une liste et puis il vous l'enverra ou je vous l'enverrai, on verra comment ce qu'on fera.